Vous écoutez Radio France Internationale, il est maintenant 19h30 ici à Paris.
Afrique Soir.
Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Philippe Le Caplin, bonsoir à toutes et à tous. La mise en garde de l'Union africaine contre une balkanisation de la République démocratique du Congo, alors que le M23 appuyé par le Rwanda poursuit son avancée dans l'est du pays, notamment dans le sud Kivu. Nous entendrons le commissaire paix et sécurité de l'organisation panafricaine. Nous irons ensuite sur le terrain où la situation sécuritaire continue de se détériorer alors que Bukavu, chef-lieu de la province du sud Kivu, est désormais sous le contrôle des rebelles du M23 et de leurs alliés rwandais. Situation qui suscite une vive réaction de la communauté internationale. Et puis, nous reparlerons également de l'assassinat de Muhsin Hendrix en Afrique du Sud. L'imam ouvertement gay a été tué par balle samedi à Port Elizabeth dans le sud du pays. Une attaque ciblée selon le porte-parole de la police. Une enquête est en cours. Le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine alerte donc sur le risque d'une balkanisation de la République démocratique du Congo. Bankole Adeoye appelle à un retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées, sans citer nommément le Rwanda. Écoutez.
We are all very concerned about an open.
Nous sommes tous très inquiets face au risque d'une guerre ouverte à l'échelle régionale. Nous appelons à la prudence et demandons au M23 et à ses soutiens de déposer les armes et de se retirer de l'aéroport de Goma ainsi que des autres zones occupées. Nous refusons toute tentative de balkanisation de l'Est de la RDC. Le Conseil et l'Assemblée réaffirment avec force leur attachement au respect et à la préservation de la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. L'Union africaine appelle à un dialogue large et inclusif pour mettre fin à cette crise.
Propos recueilli par Florence Maurice. Et puis dans l'Est justement de la RDC, la situation sécuritaire, je vous le disais, continue de se dégrader alors que les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda font une avancée significative avec notamment la prise de contrôle de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Une offensive qui a provoqué une vive réaction de la communauté internationale. Ce dimanche, le Royaume-Uni parle d'une violation flagrante de la souveraineté de la RDC et un danger pour la stabilité régionale. À Kinshasa, les précisions de Pauline Azidi.
Le M23 et son allié rwandais est en effet entré à Bukavu. Ce week-end, une colonne de soldats a été aperçue ce matin marchant vers le centre-ville, alors que la nuit dernière avait encore été marquée par des tirs. Depuis ce matin, les témoins expliquent que la situation est calme dans la ville. Il y a de nouveau des gens dans les rues et peu de circulation, mais ça reste timide. C'est très calme, les gens se baladent, mais moi je préfère rester à la maison, confie un habitant. Une occupation dénoncée par les autorités de Kinshasa, Bukavu, Goma et tous les autres coins occupés dans le nord Kivu et le sud Kivu constituent le symbole de notre résistance, a déclaré à la mi-journée le ministère de la Communication, qui ajoute que contrairement aux résolutions de Dar es Salaam, aux appels au cessez-le-feu de la communauté internationale, le Rwanda s'entête dans son dessein d'occupation, de pillage, de crimes et violation des droits humains. Kinshasa qui continue de réclamer des sanctions ciblées contre son voisin. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Je rappelle que la présence du M23 à Bukavu a été confirmée par un porte-parole de l'armée congolaise à une quarantaine de kilomètres au sud, à la frontière entre Bugarama, au Rwanda et Kamanyola en RDC. Les traversées au poste frontière étaient bloquées ce dimanche. Le récit de Lucie Mouillot.
À Bugarama, personne ne s'approche du poste frontière fermé depuis hier matin et l'absence des agents de l'immigration congolaise à leur poste. Les habitants rwandais affirment avoir entendu toute la journée de samedi sans pouvoir en identifier les auteurs de nombreux tirs de l'autre côté de la frontière, poussant la population à s'enfermer dans leur maison. Des tirs qui ont résonné notamment sur les collines de Ngomo, surplombant la plaine de Kamanyola dans la province du Sud Kivu. Aucun passage n'est donc autorisé depuis deux jours face à l'incertitude de la situation, plus calme ce dimanche. Plusieurs dizaines de chauffeurs de camions à destination d'Uvira attendent le long de la route menant vers la frontière. Depuis la rivière de Rusizi qui sépare le Rwanda et la RDC, presque personne n'était visible sur les rives congolaises. Ces derniers jours, de larges déplacements de plusieurs milliers de personnes venant de Kamanyola étaient signalés sur la route vers le sud, beaucoup trouvant refuge au Burundi. Lucie Mouillot, de retour de Bugarama, RFI.
Stupeur en Afrique du Sud après l'assassinat de Muhsin Hendrix, premier imam ouvertement gay au monde. Le religieux, défenseur de la minorité LGBT, a été abattu dans sa voiture ce week-end. Pour de nombreuses associations LGBT, il pourrait bien s'agir d'un crime de haine. Mais pour l'heure, la police annonce que le mobile n'est pas encore connu et qu'une enquête est en cours. À Johannesburg, le récit de Valentin Hugues.
Sur les images d'une caméra de surveillance, on voit un pick-up gris barrer la route de Muxin Hendricks. Un homme vêtu de noir, visage dissimulé sous une cagoule, sort et s'approche de sa fenêtre. La police de la région du Cap-Oriental confirme que samedi matin vers 10h, l'imam de 58 ans a été tué par balle. Deux hommes sont recherchés et le mobile n'est pas encore connu. Mais plusieurs associations de défense des droits LGBT craignent qu'il s'agisse d'un crime de haine. En 1996, l'imam rend public son homosexualité et devient le premier imam ouvertement gay du monde. Grand défenseur des droits des communautés marginalisées, sa mosquée proche du Cap était un refuge pour les musulmans queer. Récemment, il déclarait ne pas vouloir engager de garde du corps malgré son militantisme. Selon lui, le besoin d'être authentique était plus grand que la peur de mourir. Le Conseil judiciaire musulman d'Afrique du Sud a aussi réagi en condamnant ce meurtre et toute violence contre la communauté LGBT, rappelant tout de même ses profonds désaccords avec les positions de l'imam. Selon plusieurs témoignages en ligne que la police n'a pas confirmé, Muxin Hendricks était en route pour marier un couple de femmes lorsqu'il a été abattu. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
RFI 18h36 en temps universel. Au Niger, un peu plus d'un mois après son enlèvement, le haut fonctionnaire Alassane Souleymane a donné un signe de vie dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce samedi. Il indique être otage du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les précisions d'Eva Massi.
Voilà plus d'un mois qu'il a été kidnappé. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce samedi, Alassane Souleymane indique lui-même qu'il est captif du JNIM, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda et présent dans la région des Trois Frontières. L'ancien directeur de l'OVPN, l'Office des Produits Vivriers du Niger, se trouvait dans son jardin, dans la périphérie du parc national du W, à la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin, lorsqu'il a été enlevé par des hommes armés. Sur les images, on le voit assis, lisant un message qu'il tient entre les mains. Il dit se porter très bien, puis interpelle les autorités nigériennes et leur demande d'intervenir pour sa libération afin, dit-il, de rejoindre rapidement sa famille. Aucune revendication spécifique ou demande de rançon n'est formulée. Les militaires au pouvoir, qui dirigent au même moment les assises nationales à Niamey, n'ont pas réagi à cette prise d'otage. Pas plus qu'à celle, le même jour, le 11 janvier dernier, de la ressortissante autrichienne Eva Gretzmacher à Agadez. La ressortissante autrichienne est également toujours en captivité. Le JNIM avait démenti dans un communiqué toute implication dans son enlèvement.
Eva Massi. Et puis au Togo, victoire sans surprise du parti présidentiel aux élections sénatoriales. L'Union pour la République a décroché 34 des 41 sièges, annonce faite ce dimanche par la commission électorale au lendemain du vote qui constituait la dernière étape de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle vivement critiquée par l'opposition. L'opposition et la société civile y voient en effet un moyen pour l'actuel chef de l'État, Fornia Simbe, de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Ce dimanche au Caire, la Confédération africaine de cyclisme tenait ses élections, élections particulièrement importantes, alors que fin septembre, le continent organisera ses premiers championnats du monde sur route à Kigali au Rwanda. Contre toute attente, après plus de 20 ans de règne, l'Égyptien Mohamed Wagi Azam a été battu d'une seule voix au profit du président de la Fédération ivoirienne, Yao Alakwame. Un résultat dont se réjouit l'un de ses soutiens, le Béninois Romuald Azoumé, qu'on écoute.
Il fallait résolument changer parce que ça n'allait plus du tout. Et le mieux, c'était qu'on prenne la personne qui est déjà dans la bande et qui connaît la maison et qui peut mieux réorganiser la maison. C'est pour ça que notre choix a été porté sur Alakwame, qui était le vice-président. Voilà. Ça a été très difficile parce que nous avons gagné à une seule voix.
C'est important, encore une fois, cette année où l'Afrique va pour la première fois organiser les championnats du monde de cyclisme à Kigali, au Rwanda. Il faut rebooster le cyclisme africain.
Oui, c'est important parce que vous savez, Olivier, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique n'est pas du tout bien. C'est que nous avons du talent, mais nous-mêmes, nous ne faisons rien pour nous-mêmes. Nous ne faisons rien pour que ça change. Nous-mêmes, nous ne faisons rien chez nous, mais nous tous, nous voulons devenir chefs. Et quand on devient chef, on ne fait pas grand-chose. L'Afrique doit être unie. Nous travaillons pour l'Afrique. Nous devons construire l'Afrique. Et l'Afrique a autant de talents pour résister, et non seulement résister, mais pour réussir dans le cyclisme et dans tous les autres sports. Donc, c'est aux Africains de jouer. Nous, les présidents des fédérations, nous ne devons attendre personne pour faire au mieux chez nous déjà, avoir une crédibilité pour pouvoir se faire respecter et financer nos tours et nos activités correctement.
Le Béninois Romuald Azoumé, interrogé par Olivier pour RFI. Il est 18h et bientôt 40 minutes en temps universel.